Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bienvenue sur Conflit pour cette émission géopolitique. Conflit qui est également un magazine que vous pouvez donc retrouver en kiosque avec notre dossier actuel qui est consacré à l'Espagne et beaucoup d'autres articles et chroniques habituelles et que vous pouvez également retrouver sur l'internet revueconflit.com avec chaque jour de nouveaux articles, des vidéos, des podcasts et puis également notre boutique en ligne. Si vous voulez vous abonner, si vous voulez également acquérir les anciens numéros ou si vous voulez offrir des abonnements en cette période de préparation de Noël, un abonnement à Conflit fera des heureux à ceux à qui vous l'offrez. Vous le savez, Conflit ne vit que par ses lecteurs, que par ses abonnés et par ses lecteurs en kiosque. Donc vous abonner, c'est soutenir Conflit et c'est permettre le développement de la revue. Il y a une autre manière également de soutenir Conflit, et là je m'adresse aux auditeurs qui sont professeurs, notamment dans le secondaire. Vous savez peut-être qu'il y a des droits d'auteur qui sont reversés aux revues et aux livres quand ceux-ci sont utilisés en cours. Alors généralement, on vous demande tous les ans de faire un tableau récapitulatif des articles ou des livres que vous avez utilisés en cours, notamment lorsque vous avez fait des photocopies et que vous avez distribué aux élèves. Alors je sais que ce tableau est toujours fastidieux à réaliser, ça prend du temps, c'est un peu compliqué à faire, mais c'est très utile puisque une partie des droits d'auteur sont reversés à Conflit. Donc, si vous utilisez des articles de Conflit en cours, ce qui est tout à fait possible, tout à fait légal, évidemment, si vous imprimez des articles de Conflit pour les distribuer à vos élèves, s'il vous plaît, mentionnez-le bien dans ces tableaux récapitulatifs parce que ça nous permet après, nous, de retoucher une partie des droits d'auteur et c'est un revenu qui est assez substantiel. Pour vous donner une idée, ça finance le paiement, la gratification des stagiaires pendant une année. Vous savez qu'on prend plusieurs stagiaires pendant l'année, ça permet de les former, ça permet d'en mettre un premier pas dans la vie professionnelle et c'est le coût d'un stagiaire est financé en partie par ces droits d'auteur que nous touchons. Donc voilà, je signalais ça, mais c'est important. C'est fastidieux à faire quand on est professeur, je le fais moi-même et c'est toujours un peu pénible, mais ça sert à quelque chose et ça nous est très utile. Voilà, je referme cette parenthèse économico-droit d'auteur pour aborder le sujet de cette semaine où je vous emmène en Europe de l'Est. Nous allons parler de la Hongrie, ce pays ô combien intéressant qu'on regarde souvent avec des yeux un peu compliqués vu de France parce que la Hongrie est un pays qui nous échappe et qu'on a parfois du mal à comprendre. Alors nous allons essayer au cours de cette émission de décrypter la Hongrie, de mieux comprendre ce qu'est la Hongrie, ce qu'est la politique menée par Viktor Orban et son gouvernement depuis 2010, en quelques mots donc de comprendre la stratégie hongroise. Et pour en parler, je reçois cette semaine Thibaut Gibelin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu à notre micro, vous êtes essayiste, vous êtes professeur associé au Matthias Corvinum Université à Budapest et vous avez préfacé un ouvrage qui vient de paraître aux éditions La Nouvelle Librairie en coopération avec l'Institut Iliade. Alors un ouvrage qui s'appelle « Comprendre la stratégie hongroise » qui est un ouvrage de Balázs Orbán. Balázs Orbán qui est le bras droit, le conseiller de Viktor Orbán. Alors ils ont le même patronyme mais il n'y a pas de lien de parenté entre les deux. Et donc il a publié un ouvrage pour expliquer la politique menée par Viktor Orbán depuis quelques années. Et donc vous avez assuré l'édition française. Alors la traduction a été réalisé par Yann Kaspar, qui publie régulièrement dans Conflit. Donc, vous pouvez également retrouver le traducteur de l'ouvrage Yann Kaspar dans Conflit. Et vous avez assuré le soutien à la logistique éditoriale et la préface de l'ouvrage. Alors, Viktor Orbán, c'est un peu parfois une énigme vue de France. Il est Premier ministre depuis 2010, mais il y a eu un précédent mandat entre 1998 et 2002. Donc, il a perdu les élections en 2002. Il passe plusieurs années dans l'opposition et revient en 2010. Et depuis, c'était un succès puisqu'on a sa quatrième réélection. Alors, on va commencer cette émission par une brève biographie de Orban. Qui est-il exactement? Il a commencé sa carrière politique comme un dissident, un opposant au système communiste, et ensuite donc une vie politique d'élu une fois le régime communiste tombé.
Alors, en effet, Viktor Orban a une longue vie politique. Il est rentré en fait en politique, je dirais peut-être sans s'en rendre compte, en créant avec quelques amis dans la vingtaine comme lui en 1988 le Fidesz, l'association des jeunes démocrates. C'était une association dissidente, c'est-à-dire interdite aux jeunes qui étaient membres du Parti communiste et interdite aux plus de 35 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est maintenant à quasiment à 35 ans de cette aventure politique qu'est le Fidesz, et je dirais dont Viktor Orban est le visage. Et cette période, c'est plus qu'une histoire hongroise, c'est une histoire européenne, si bien qu'on peut, en retraçant la biographie de Viktor Orban, faire un bilan, finalement, de l'histoire européenne à la charnière de deux siècles. Viktor Orban, vous l'avez mentionné, a été Premier ministre en 1998. À cette époque-là, c'est le plus jeune Premier ministre d'Europe. Il a 35 ans. Il a passé 8 ans dans l'opposition, a donné une consistance politique et idéologique à son parti, c'est-à-dire en se détachant du libéralisme initial, qui était surtout là pour prendre le contre-pied en fait, du communisme, et en épousant une trajectoire plus nationale conservatrice. En 1998, il arrive au pouvoir avec une grande coalition de droite et il n'arrive pas à prendre pied dans ce qu'on appellerait l'état profond, dans les structures de pouvoir en Hongrie, tout simplement parce que le changement de régime de 1990 a en fait été un ripollinage de l'appareil d'État communiste avec une loyauté qui est passée de Moscou à l'Ouest, mais sans profonde réappropriation nationale de la politique hongroise. Or, les Hongrois sont un peuple politique et ce sentiment d'interrègne qui commence à durer fait que Viktor Orban vient combler un vide. Il vient répondre à une frustration et il vient répondre à une attente. Qu'est-ce que la Hongrie après l'occupation communiste, après cette séquence, je dirais, du pacte de Varsovie? En 2002, Viktor Orban, malgré des résultats assez convaincants sur le plan de l'économie, sur le plan du rapprochement de l'Europe, puisque le fait d'intégrer les structures supranationales européennes était vu comme finalement une réunification, un retour à la normale, eh bien en 2002, il retourne dans l'opposition, il perd les élections et il y restera 8 ans. Et dans cette période-là, il y a deux choses intéressantes qui se produisent. D'abord, le Fidesz fait son bilan critique. Ils n'ont pas été à la hauteur. Finalement, ils n'ont pas su répondre à la conflictualité inhérente aux politiques. Et deuxièmement, ce monde occidental pour lequel ils avaient des yeux de chimène en 1990 commence à perdre ses dorures, notamment avec la crise de 2008, qui est une forme de crise de confiance, non seulement parce que c'est une crise de la dette américaine, là, initialement la crise des subprimes et la crise de 2008 qui s'ensuit, mais aussi parce que finalement c'est ce modèle planétaire américain qui était présenté comme inéluctable et indépassable, qui se fissure. Et donc, ça permet au Fidesz et à Viktor Orban de retrouver le sens d'une stratégie hongroise, de retrouver le sens d'une tradition politique nationale à opposer aux errements du modèle occidental et post-occidental. Si bien qu'en 2010, Viktor Orban revient avec non seulement une majorité colossale, c'est-à-dire une majorité des deux tiers qui veut lui permettre de refonder l'ordre constitutionnel hongrois, mais aussi avec des outils intellectuels et une vision stratégique du politique qui est à l'œuvre depuis maintenant plus de 13 ans.
Alors, la Hongrie, au XXe siècle, a connu deux chambardements massifs. D'abord, la disparition de l'Empire d'Autriche-Hongrie et ensuite la disparition de l'Empire soviétique, qui a évidemment changé beaucoup la donne d'un point de vue politique et d'un point de vue également du territoire et de la population. Comment ce pays qui a toujours été inséré dans un empire, soit capitale Moscou, soit capitale Vienne auparavant, comment a-t-il fait pour devenir un pays national, c'est-à-dire s'affirmer avec une capitale Budapest et se penser comme un État-nation
indépendant et on va dire autonome, alors que jusqu'à présent, elle a toujours été insérée dans un système impérial plus vaste. Alors, le fait d'être inséré dans des empires, c'est en effet le fait majeur, le fait historique des 5 derniers siècles. C'est-à-dire depuis la défaite de Mohaj face aux Turcs, c'est d'abord la Sublime Porte hein, qui a dominé la plupart des territoires hongrois. C'était à l'époque en fait un pays déchiré entre les Habsbourg et les Ottomans. Il y a aussi eu 5 siècles avant, 5 siècles de grande puissance nationale où la Hongrie, avec l'intégralité du bassin des Carpates dans son orbe, exerçait un rôle important sur la scène européenne. Le retour au cadre strictement national, c'est en fait 1918, 1920, Trianon, cette petite Hongrie. Et à ce moment-là, la Hongrie est donc strictement nationale. C'est l'époque de la régence de l'amiral Horthy. Qu'est-ce qui s'est passé? La Hongrie étant faisant partie de ces pays de taille moyenne ou de petite taille de l'espace centre-européen, elle a été broyée. Elle a d'abord été entraînée dans l'Alliance allemande, ce qui est une nécessité pour la révision des traités de la Première Guerre mondiale, mais aussi parce que le poids économique de l'Allemagne, surtout après l'Anschluss, était incontournable. Et quand ce n'était pas un géant allemand qui s'imposait dans la région, ça a été un géant russe. Donc la grande leçon de la Hongrie, c'est que finalement, avoir une situation officiellement, théoriquement nationale, ça n'empêche pas le fait impérial dominant, qui est dans cet espace continental, une fatalité de la géographie. Si bien qu'aujourd'hui, les Hongrois savent qu'ils sont dans l'orbe occidental et que c'est l'Empire américain qui décide largement. Et simplement, comme à l'époque du pacte de Varsovie sous Moscou ou à l'époque de l'Empire d'Autriche-Hongrie, ils essaient de négocier la marge de manœuvre la plus confortable possible dans cet ensemble supranational. Donc la Hongrie, je dirais justement, si elle a une stratégie aussi efficace, on le voit par rapport en fait à ses voisins, c'est relativement à ses voisins, c'est parce que elle continue elle s'appuie sur une culture politique qui est fort ancienne.
On le voit, par exemple, la Hongrie est membre de l'Union européenne. Il y a des frictions régulièrement avec Bruxelles, mais Viktor Orban ne remet pas en cause l'intégration dans l'Union européenne. Il n'y a pas de sortie de l'Union européenne comme a pu le promouvoir le Royaume-Uni.
Bien sûr, d'abord parce que la Hongrie, c'est 85% de son commerce avec les pays de l'Union européenne et qu'elle est de fait enclavée. On a bien vu à quel point le Brexit était quelque chose de très épineux et à quel point d'ailleurs les soucis populistes qui ont animé finalement ce Brexit, cette volonté de Brexit, n'ont pas été satisfaits depuis quelques années où le Royaume-Uni finalement rendu à lui-même, en fait il essaie de... Enfin, j'entends par là les élites britanniques, elles poursuivent les principaux schèmes de la mondialisation, simplement non pas intégrés dans une structure supranationale qui est l'Union européenne, mais en tant que Royaume-Uni. Pour la Hongrie, il n'y a pas les moyens hein, de quitter l'Union européenne, et de plus, il y a le sentiment que l'Europe est un destin partagé, qu'il y a un ordre européen qui est nécessaire et donc qu'il appartient à la Hongrie de définir en tant qu'État-nation, en tant que part constitutive de l'Europe. C'est pourquoi dans cette bataille de David contre Goliath, qui fit tous les 5 ans, et que la Hongrie dit, voilà, il faut changer les choses à la tête de la Commission européenne, il faut changer la ligne idéologique de ces bureaucrates qui nous gouvernent mal. Eh bien, Viktor Orban insiste sur le fait qu'il revient au peuple européen de décider. Et ce travail d'influence, il est en fait, je dirais, par cercle concentrique. Hein, le premier cercle concentrique, c'est le bassin des Carpates, qui est cet espace traditionnel d'épanouissement de la puissance hongroise. Et puis au-delà, c'est cette Europe centrale, qu'on appelle aujourd'hui le groupe de Visegrád, puisque c'est les 4 pays qui sont à la fois intégrés dans l'Union européenne, dans Schengen, et qui sont cette Europe médiane qui existait déjà hein, à l'époque médiévale, et en dernière instance, essayer d'influer ou de limiter une pression jugée malfaisante du noyau carolingien.
Alors, vous avez cité le bassin des Carpates, c'est effectivement un point très important. Et dans l'ouvrage de Balázs Orbán, il y a un chapitre qui est consacré à cette vision géographique et cette importance du bassin des Carpates. On va y revenir parce que c'est fondamental, me semble-t-il, pour comprendre la Hongrie, notamment le fait qu'il y a une population assez importante de Hongrois qui ne vivent pas en Hongrie, parce que les frontières ont fait un peu l'accordéon au cours du XXe siècle. Une partie de la population qui est en Ukraine, et il faut quand même rappeler que la Hongrie a une frontière commune avec l'Ukraine. Et donc, il y a eu, au moment de l'invasion russe de l'Ukraine, des craintes. Alors, soit on a joué à se faire peur, soit on a parfois attisé des craintes réelles, qui étaient que, alors on a dit que la Hongrie pourrait peut-être en profiter pour récupérer un morceau de l'Ukraine où habitent des populations hongroises. Ou alors, la question également de savoir si les Hongrois, ils sont à peu près 200 000, il me semble, qui vivent en Ukraine, seraient fidèles à l'Ukraine ou bien refuseraient de se battre. Donc ça a été un sujet épineux. On a vu ressurgir cette question à la fois territoriale et nationale. Qu'en est-il aujourd'hui de la position de la Hongrie sur ces questions des populations hongroises hors Hongrie et également par rapport à la guerre actuelle en Ukraine?
Au moment où on se parle, nous sommes le jeudi 14 décembre, un Conseil européen est en cours à Bruxelles. Et l'un des enjeux majeurs de ce Conseil européen, c'est s'accorder sur l'aide à fournir à l'Ukraine et la place de l'Ukraine dans le partenariat européen. La position de la Commission étant d'ouvrir les négociations d'adhésion alors que 7 conditions ont été fixées et qu'aucune n'est remplie. C'est pourquoi la Hongrie s'oppose strictement à l'ouverture des négociations d'adhésion, tout simplement parce que ce serait un schéma à la turque, si je puis dire, où en fait ensuite on fait lanterner éternellement un pays qui est candidat, dans lequel il y a des négociations et qui n'aboutissent jamais. L'un des points, c'est le respect des minorités en Ukraine et notamment de la minorité hongroise. Ce que demande la Commission et ce qui a été la position en fait de la Hongrie à l'intérieur de ce concert européen, c'est pas la lune, c'est le retour à la situation de 2015, c'est-à-dire avant le serrage de vis nationaliste ukrainien qui a réprimé les droits des minorités, notamment en fait de respect de la langue, des écoles de langue hongroise, etc., qui sont les victimes collatérales de cette pression ukrainienne pour ukrainiser le pays et en chasser l'influence et la présence du russe. Mais le fait est que à l'endroit des Hongrois, cette méfiance était mal placée. D'abord, les Hongrois, sont conscrits, sont envoyés au combat. Beaucoup meurent en fait dans les combats au moment où on se parle dans le Donbass et sur le front de Zaporogier. Et les Hongrois donc n'ont pas été déloyaux en tant que citoyens ukrainiens, mais au contraire apportent une contribution. Et c'est pourquoi Viktor Orban milite pour la paix depuis le premier jour, puisque cette guerre, ce n'est pas comme pour des Anglo-Saxons. Des Slaves orientaux qui meurent contre d'autres Slaves orientaux, c'est des Hongrois qui vivent dans cette région de l'ouest de l'Ukraine depuis 1000 ans, qui meurent dans le cadre d'un conflit qui, pour les Hongrois, est un suicide ukrainien et une condamnation de l'Europe à l'impuissance.
Les populations hongroises donc, vivant en Ukraine pouvaient mettre leurs enfants dans des écoles hongroises, notamment pour apprendre la langue, qui est un peu compliqué d'ailleurs, le hongrois, il faut quand même le reconnaître. Mais c'est plus clair depuis 2015 maintenant. Est-ce qu'il y a toujours des écoles où on apprend le hongrois ou non?
Et alors, ces écoles en fait subissent une pression importante, c'est-à-dire que ces écoles doivent se passer à l'ukrainien. Le statut des Hongrois étaient relativement privilégiés antérieurement, c'est-à-dire à partir de 1991, simplement parce que, encore une fois, les populations hongroises ne sont pas des populations immigrées, elles sont des populations autochtones constitutives qui simplement se sont retrouvées à l'étranger, et d'ailleurs plusieurs fois dans le siècle, puisqu'il y a c'est même l'histoire d'une blague, d'un Hongrois qui se présente au paradis, on lui demande où il est né. Je suis né dans l'Empire d'Autriche-Hongrie. Ensuite, je suis allé à l'école en Tchécoslovaquie. Ensuite, j'étais dans le royaume de Hongrie pour commencer à travailler. Puis j'ai été en République socialiste soviétique d'Ukraine. Et puis je suis mort en Ukraine. Et donc on me dit, bah, vous voyagez alors? Non, non, je suis resté exactement dans la même ville. Voilà, donc cette situation des Hongrois en Ukraine, elle est partagée hein, dans les autres zones du bassin des Carpates. Mais par exemple, en Transylvanie, en Roumanie, il y a une vie culturelle relativement autonome, les pressions assimilationnistes ayant été particulièrement fortes du temps du communisme sous Ceausescu. Mais aujourd'hui, on est dans un modus vivendi beaucoup plus, je dirais, harmonieux.
Vous avez évoqué le groupe de Visegrad qui réunit les pays d'Europe centrale. Quelle est la position aujourd'hui de la Hongrie par rapport à ses voisins, la Pologne, la Slovaquie et la République tchèque? Est-ce qu'il y a l'idée de faire un groupe, un petit peu un club d'Europe centrale par rapport à l'Europe de l'Ouest, ou est-ce qu'il y a des intérêts divergents entre ces pays?
Alors, c'est la Hongrie qui, en 1991, hein, sous le premier ministre hongrois József Antal, a relancé cette création du groupe de Visegrád, qui à la base était un groupe de constitué de trois pays, puisque la Tchécoslovaquie en formait encore un seul. Ce nom, groupe de Visegrád, renvoie en fait à une alliance des années 1330 entre les rois de Hongrie, de Pologne et de Bohême-Moravie, c'est-à-dire la République tchèque actuelle. Pourquoi? Eh bien parce qu'à cette époque-là déjà, ces pays-là, sur le flanc oriental de la chrétienté d'Occident, percevaient la puissance germanique comme une puissance qui pouvait mettre en danger leur autonomie, leur indépendance. Donc c'est une coordination, c'est un syndicat des centres européens non allemands, c'est-à-dire principalement slaves évidemment, mais aussi les Hongrois. Ce qui est intéressant, c'est que ce terme a été retrouvé. Terme de nom de Visegrád, ce qui montre que il y a une longue mémoire de cette région en tant que composante historique de l'Europe, et c'est ça leur principal atout, hein, c'est qu'ils ont un passé commun et des épreuves partagées. En revanche, ils sont aujourd'hui confrontés à quelques difficultés, notamment vis-à-vis de la guerre en Ukraine, parce que le grand trauma du démantèlement antinationale que connaît la Pologne, c'est face à la Moscovie, à la Russie, alors que pour les Hongrois, ça a été face à l'Empire ottoman. Donc il y a une hantise de la puissance russe en Pologne qui n'est pas similaire en Hongrie. C'est d'autant plus problématique avec le retour au pouvoir du centre et de la gauche en Pologne, hein, suite aux élections de cet automne, avec un discours sans concession. Dans le côté belliqueux, alors que Viktor Orban est l'avocat de la paix depuis le premier jour du conflit en février 2022.
Alors, autre sujet épineux entre la Hongrie et le reste de l'Europe, c'est la question migratoire, puisque la Hongrie se trouve sur la route des Balkans, donc population qui arrive notamment par la Serbie. Je renvoie d'ailleurs nos auditeurs à un très bon article de Pierre-Yves Bailey sur le sujet. Il a été sur place, il a enquêté à la frontière entre la Hongrie et la Serbie. La manière dont les Hongrois répondent à cette question migratoire est souvent critiquée à Bruxelles. Et les Hongrois disent, mais nous jouons notre rôle, c'est-à-dire que l'esprit de Schengen, c'est libre circulation intérieure, mais protection des frontières extérieures. Et ces populations traversent la Hongrie, mais ne s'y arrêtent que très peu. Elles vont pour la plupart en Allemagne, donc ça peut être plus simple d'ouvrir les murs et de faire passer les gens, mais ça serait finalement contraire à l'esprit de Schengen qui veut que chaque pays fasse son parti de protéger de sa frontière extérieure. Donc on voit que là, il y a une dissension sur la politique qui est menée et sur la compréhension de l'esprit de Schengen par rapport à la circulation intérieure et la protection extérieure.
Oui, la Hongrie, en fait, respecte ses engagements communautaires en exigeant d'une personne se présentant à l'entrée de la zone Schengen un titre de séjour. Et ce n'est pas le cas, évidemment, des masses immigrées. Donc, la Hongrie a été accusée, enfin, on lui a reproché de respecter la loi, de respecter cet état de droit dont on fait un totem, souvent, en fait, vide de contenu. Ce qui se passe là encore, c'est que la longue histoire pèse, hein. C'est-à-dire que cette route des Balkans, c'est la route qu'a pris l'armée de Soliman le Magnifique avec 100 000 hommes pour écraser la Hongrie en 1526. C'est un monde oriental, extra-européen, qui fait pression. Et la Hongrie joue le même rôle qu'elle jouait il y a 600 ans, lorsqu'on l'appelait l'Antemurale Christianicis, c'est-à-dire la muraille de l'Occident. Hein, c'est une évidence, en fait, aussi, du point de vue des ressources infinies, finalement, de ce voisinage islamique qui pourra toujours trouver, et d'autant plus avec le chaos semé par la politique étrangère américaine, des gens qui chercheront une condition de vie plus agréable en Europe. Donc la Hongrie, elle est en accord avec un legs historique, elle est en accord avec la légalité, avec ce que lui prescrit c'est l'engagement de Schengen. Cependant, il y a un agenda économiciste qui était déjà celui de Jean-Claude Juncker dès 2014, hein, quand il a pris la tête de la Commission, simplement de voir qu'avec le déclin démographique, il faut des consommateurs et des travailleurs à bas coût. Donc l'Europe doit accueillir 60 millions de personnes dans les 30 prochaines années. Voilà. Par une réflexion purement comptable. Hein. Alors qu'après, ça suppose ou ça implique un nihilisme à l'endroit des peuples européens et de la permanence, finalement, de nos peuples, c'est un autre sujet. Mais la Hongrie, elle, se trouve en situation de défendre l'intérêt national hongrois et donc l'intérêt national européen. Et c'est là une toute autre approche, finalement, de la conscience européenne qu'on a aujourd'hui dans notre schéma idéologique libéral. Être un bon Européen, c'est simplement être à sa place en tant que homme de sa nation. C'est évidemment une autre perception que cette vision idéologique d'une Europe post-nationale.
Alors, il y a une bonne traduction, justement, de ce rapport à l'histoire et à la nation. Ce sont les travaux qui sont actuellement menés à Budapest. Alors, pour nos auditeurs qui ont été à Budapest, vous verrez immédiatement à quoi je fais allusion. Pour les autres, je vous invite à découvrir cette ville qui est très belle, avec des monuments historiques fort intéressants. Donc, on est sur le château. Il y a une partie du château qui a été détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis aussi qui n'ont pas été entretenus pendant la période soviétique. Et ce que l'on voit depuis quelques années, c'est une reconstruction d'un certain nombre de bâtiments qui avaient été soit rasés, soit qui étaient vraiment complètement délabrés. Alors, une reconstruction qui est très intéressante parce que c'est fait avec des matériaux modernes, donc des murs en béton armé et une structure vraiment dans les normes architecturales et de construction les plus contemporaines, mais dans le style de l'époque. C'est-à-dire qu'on a la structure qui est en béton, et l'enveloppe extérieure qui reprend le style de l'époque. Donc quand on voit le bâtiment, on a l'impression d'un bâtiment qui a des siècles, alors qu'en fait il a été inauguré il y a 2 ou 3 ans, mais il reprend exactement l'élément architectural d'aujourd'hui. Donc ça montre aussi ce rapport à la modernité, cette idée de rebâtir, on rebâtit des monuments pour rebâtir aussi une nation.
Absolument, ça c'est un des grands projets, il y en a plusieurs, hein, mais ça s'appelle le plan Haussmann. Alors pas de notre baron Haussmann à qui on doit le Paris actuel, mais un Haussmann, Alois Haussmann, qui était un Hongrois et qui a conçu largement en fait, le Budapest de la fin du 19e siècle, une époque faste dans l'histoire hongroise et budapestoise. Le plan Haussmann actuel, c'est en effet de reconstruire ce qu'on appelle le quartier du château tel qu'il était avant la terrible bataille de Budapest quand l'armée rouge a pris en fait, Budapest à l'armée allemande et hongroise qui l'occupait. C'est très intéressant parce que c'est un défi, un gant jeté à la face du destin. La vieille Hongrie devait avoir disparu pour être régénérée dans le communisme. C'était la fatalité de l'histoire telle qu'on l'a imposée pendant 45 ans de communisme. Et puis après, il y a le sentiment que la Hongrie ne sera, enfin l'Europe centrale en général, ne sera que la queue de comète. Hein, de cet Occident qui a mené l'histoire à son terme. Eh bien non, pour les Hongrois, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de déclin qui soit inéluctable. Donc les bâtiments sont reconstruits, vous l'avez très bien décrit, en associant les moyens du BTP actuel et en ornant les façades, en restituant le faste extérieur des bâtiments, mais aussi d'ailleurs la décoration intérieure. Ça a deux enjeux principaux. D'abord, ça accompagne un mouvement d'embellissement et de réhabilitation de Budapest qui devient une des capitales européennes les plus attractives. Et deuxièmement, c'est un témoignage pour les Hongrois de la possibilité de régénérer l'histoire par la ferveur nationale, par le sentiment d'appartenir à cette communauté culturelle qui se maintient dans le bassin des Carpates depuis plus de 11 siècles.
Alors Budapest est aussi connu pour ses thermes. Il y a beaucoup, c'est une longue tradition, puisque dès l'époque romaine, il y avait des thermes, des sources d'eau chaude, et des thermes qui là aussi ne sont pas que des lieux de sociabilisation. Enfin, les Budapestois y ont certes pour le bain, mais aussi pour se rencontrer et échanger, mais ce sont aussi des monuments artistiques avec une architecture extrêmement poussée et qui se visitent, ne serait-ce que rien que pour le bâtiment et la beauté des bâtiments.
Oui, alors les bains sont en effet une vraie culture nationale en Hongrie, et c'est simplement parce que c'est cette région d'Europe est la région où il y a le plus de sources d'eau chaude hein, au kilomètre carré. Donc, ne serait-ce qu'à Budapest, il y a une dizaine de bains thermaux avec un souci assez aristocratique en fait, de l'époque austro-hongroise de mettre en valeur et de célébrer une certaine esthétique, ce qui fait que quand on prend une demi-journée pour passer au bain, on pourrait en effet aussi y être simplement pour le plaisir des yeux, la beauté de l'architecture et pas tellement pour les soins thermaux.
Alors la question également qui se pose, si je reprends les propos de comprendre la stratégie hongroise de Balázs Orbán, le livre que vous avez contribué à éditer, c'est aussi l'après Orbán, c'est-à-dire que Viktor Orbán est un homme extrêmement charismatique qui a été brillamment réélu. C'est quand même assez rare au niveau européen d'avoir quatre élections.
Oui, on peut le souligner en effet pour nos auditeurs, les élections sont tous les 4 ans en Hongrie et la majorité des deux tiers a été renouvelée en 2014, en 2018, en 2022.
Ce qui montre une vraie assise populaire.
Absolument, son principal ressort, c'est le plébiscite démocratique.
Et la question, c'est qu'est-ce qu'il peut y avoir après ? Nul n'est éternel, donc il y aura un autre cycle après. Est-ce qu'il y a une personnification autour de Viktor Orbán qui fait que le jour où il disparaît, son œuvre en quelque sorte disparaît ? Ou est-ce qu'il y a aussi une présence dans des cadres, dans un avenir politique, des hommes politiques aussi prêts à prendre la suite ?
Alors, il faut bien faire un distinguo. Au tout début de cet entretien, vous avez dit aux éditeurs que nous partions en Europe de l'Est. C'est pas tout à fait l'Europe de l'Est, la Hongrie, c'est l'Europe centrale. Et contrairement à l'Europe de l'Est, où la tradition autoritaire est complète, il n'y a à peu près que ça, c'est-à-dire que la Russie doit une bonne partie de son orientation politique aux legs mongols, et donc avec cette domination de l'ordre d'or très dure que finalement les tsars ont retourné hein, à l'avantage des Slaves orthodoxes, mais une culture politique très particulière les distingue de l'Europe centrale. En Hongrie, le Fidesz, c'est un parti qui a un enracinement populaire colossal et aussi avec myriades d'associations. C'est la figure mise en avant par le Fidesz depuis une vingtaine d'années, c'est la figure du polgar. La figure du polgar, c'est-à-dire citoyen. Hein, ça vient en fait, c'est l'allemand Burger qui a donné polgar en hongrois. C'est l'idée d'engagement civique. C'est l'idée du sens de la responsabilité. Et donc, on demande aux Hongrois d'être les acteurs de leur destin. C'est un ralliement d'énergie. C'est pas une espèce de monarchie absolue. Il y a cette émulation des cadres du Fidesz, etc., qui est fortement encouragée. Si bien que Viktor Orbán ne pense qu'à la suite. Il pense simplement, il essaie de replacer la Hongrie dans une trajectoire traditionnelle, dans un ordre traditionnel, tel que les errements du XXe siècle l'en avaient sorti. Ensuite, ce n'est pas évidemment garanti que ça fonctionne, mais il y a beaucoup de cadres du Fidesz qui sont assez jeunes en fait, des quadragénaires, le ministre des Affaires étrangères Péter Szijjártó, Judit Varga qui est ministre de la Justice et qui va prendre la tête de la liste Fidesz aux élections européennes, mais une myriade en fait, de personnalités assez influentes qui ont leur propre visibilité dans la vie politique hongroise. Et puis, Balázs Orbán, qui n'a que 37 ans et qui, à 37 ans, exerce des responsabilités très importantes. Enfin, concernant Balázs Orbán également, il est non seulement directeur politique du Premier ministre Viktor Orbán, ce qui fait de son livre, évidemment, un livre particulièrement informé, mais il est aussi le président du conseil d'administration du Matthias Corvinus Collegium, où je suis professeur invité, qui se veut une véritable institution qui favorise l'émergence d'une élite nationale hongroise au XXIe siècle. Donc ce sont des enjeux qui sont très bien identifiés par Viktor Orbán et ses proches. Oui, il faut penser à la suite, et ça se fait à travers le dynamisme civique et la préparation d'une génération de décideurs dans ces pépinières que sont les différentes institutions proches du Fidesz.
Merci beaucoup Thibaut Gibelin d'être venu au micro de Conflit pour nous présenter cette stratégie hongroise. Les références de l'ouvrage « Comprendre la stratégie hongroise » sont à retrouver sur le site internet de Conflit, site internet où vous pouvez également retrouver notre boutique en ligne. Vous pouvez passer par le site pour offrir des abonnements à Noël, un très beau cadeau pour comprendre et décrypter le monde. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.